Bonjour, vous êtes en grève de la faim. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer pourquoi une démarche si radicale ?
Bonjour, donc Pascal André, médecin. On va juste peut-être se présenter. Donc Amina Mansouri et Rislaine. Donc on est en grève de la faim maintenant depuis 12 jours. Radicale, ben, pour éviter la radicalité sous la forme de la violence, on a choisi la non-violence. On a choisi la non-violence pour essayer d'encontrer des personnes qui ferment les yeux, bouchent leurs oreilles et ne veulent rien voir en disant, comme le journaliste de FR3 tout à l'heure que nous avons eu au téléphone de Rennes, cela n'intéresse pas les Bretons et nous raccrochons au nez. Donc ce silence et cette hypocrisie que personnellement je vis dans mes rencontres politiques depuis plus d'un an à tous les niveaux en France et à Bruxelles, et dans les médias, est directement responsable de ce qui se passe là-bas. Car quand les soignants en Cisjordanie en 2023 ou à Gaza en janvier 2024 à l'hôpital européen Rani Yunis nous disent « merci de venir penser avec nous, penser avec un A les blessés », mais si tu veux vraiment nous aider à prendre soin de nous et de notre population, arrêtez les bombardements. Et pour arrêter les bombardements, il n'y a que vous qui pouvez le faire en appliquant le droit international. C'est quoi ce pays qui énonce un droit sur lequel il s'assied? Et les droits humains, le droit international, le droit de la guerre, le droit humanitaire. Donc clairement, voilà pourquoi... pour éviter la violence qui peut monter, et surtout que beaucoup, probablement au sein du gouvernement et au sein des partis d'extrême, attendent, c'est une alternative pour mobiliser les consciences, c'est-à-dire que plutôt chacun puisse regarder en face dans le miroir le soir et penser aussi à comment il se regardera quand son enfant, dans quelques temps, lui demandera « Mais maman, papa, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là » Peut-être ça fait aussi un petit peu écho avec ce qu'on a vécu en 39-45. Hein, les terroristes de l'époque sont les résistants d'aujourd'hui, mais les hypocrites et les lâches d'aujourd'hui, que seront-ils demain?
Depuis combien de temps êtes-vous en grève de la faim?
Depuis lundi 31 mars, nous avons commencé à Marseille. Nous étions quatre grévistes de la faim, dont deux médecins, le docteur Pascal André qui vient de s'exprimer et le docteur Khaled Benboutrif. Il y avait quatre jeûneurs. Bon, nous avons parcouru différentes villes. Hein. Nous sommes passés par Montpellier, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Nantes et nous sommes aujourd'hui à Rennes. Et hier soir, enfin, c'est des chiffres qui changent régulièrement. Hein. Donc nous étions 12 grévistes de la faim dans toute la France et 30 jeûneurs, mais depuis Nantes, on sait qu'un collectif de grévistes jeûneurs solidaires est en train de se constituer. Hier soir, suite à la conférence au Polybloc, je sais pas comment vous appelez ça, Polybloc, il y a un certain nombre de gens qui se sont inscrits également et on voit qu'en tout cas les gens font des collectifs dans les communes avant, au lieu de se signaler de manière individuelle.
Et quelle structure vous accompagne?
Alors en fait il faut savoir que c'est un mouvement qui est né parce qu'on a décidé qu'il y avait une urgence absolue. Il n'y a aucun partenariat. Il y a juste une solidarité qui s'est mise en place et des personnes qui, à chaque ville-étape, viennent à notre rencontre et se proposent en fait de nous aider des manières différentes, en nous offrant une salle, en nous proposant en fait des lieux de rencontre où il y a du passage. Nous avons également été contactés dans plusieurs villes par des universitaires, des étudiants qui nous ont proposé de prendre la parole pour expliquer notre démarche. Et puis également recueillir le témoignage des deux docteurs qui nous ont accompagnés au fur et à mesure. Donc il n'y a aucune structure qui finance ou qui nous accompagne. Et si c'est un choix, mais c'est donc je ne sais pas si ça a déjà été dit, c'est un mouvement apolitique, sans affiliation, laïque, et parce qu'il y a une urgence humanitaire. et qu'en fait on a décidé de partir pour faire visibiliser nos voix et interpeller nos politiques et nos institutions européennes. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment les collectivités territoriales et l'État prennent en compte votre démarche ?
C'est une question excellente. Hein. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que collectivités départementales, communales, régionales et nationales n'ont pas le courage de respecter le cadre légal qui pourtant s'impose à elles comme à chaque citoyen. En regard donc des avis extrêmement clairs donc de la Cour internationale de justice du mois de janvier et puis surtout celui qui a été validé donc par l'Assemblée générale de l'ONU donc au mois de septembre, qui contraint chaque politique, mais aussi chaque citoyen, de tout faire pour ne pas permettre à l'État d'Israël, c'est écrit dans les textes, de poursuivre son extension coloniale, et qui, juste c'est écrit aussi, qui avait 12 mois au mois de septembre 2024, donc qui a jusqu'à septembre 2025 pour arrêter la colonisation. On voit que c'est tout à fait le sens que ça prend. Et bien entendu aussi dans les avis donc, du mois de janvier de risque plausible de génocide et d'intention génocidaire, malheureusement confirmé par nous, nos témoignages dès le mois de janvier 2024, ne disent rien parce que circulaire du Pont-Moretti le 10 octobre qui est complètement cassatrice de la liberté publique, qui empêche de recontextualiser, qui fait peur, parce que lâcheté de la société politique française qui mélange critique d'un gouvernement extrême droite d'Israël dans son projet d'expansion coloniale, il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas nous qui le disons, c'est la Cour internationale de justice, donc utilisons les beaux mots, les bons mots. Donc par rapport à tout ça, les gens ont peur. Les gens ont peur de s'exprimer, et puis aussi la pression d'un lobby qui est quand même extrêmement influent en France, qui est un lobby directement en lien avec le gouvernement donc israélien d'extrême droite, et qui a, comme on le voit aujourd'hui, conférence de presse, vous êtes le seul. Vous êtes le seul à être présent. Tous les autres ont décliné. Extrêmement présent donc, dans la construction donc, de la narration. Clairement, nous sommes dans un mouvement non violent où les victimes sont des deux côtés. Le traumatisme est évidemment des deux côtés. Le traumatisme israélien et des juifs en Israël, tout le monde n'est pas juif en Israël, est à reconnaître, est absolument terrible. Ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument terrible. Les otages est absolument terrible. Mais les otages ne sont pas que d'un seul côté. Un peuple est en otage depuis tant de décennies sans qu'on en dise rien. Nos confrères sont... Ils avaient 8 kilos de moins en janvier 2024. Maintenant, ils sont à moins 20 kilos. Ils continuent à travailler. Quand ils ne sont pas traumatisés psychiques, quand ils ne sont pas incarcérés et torturés, comme nombre d'entre eux, nous en avons été témoins, avec le docteur Khaled Ben Boutrif, qui nous a quittés il y a 2 jours, mais qui a travaillé dans le nord de Gaza et qui était très proche de ce médecin qui est actuellement pédiatre. Enfermé dans les prisons, donc probablement dans le désert israélien, malgré la pression internationale et la mobilisation de Dr. Aboul Safi. Et donc c'est vraiment... C'est parce que le silence est là, l'hypocrisie est là, et que lorsqu'on est là-bas, nos confrères nous disent « Allez changer les mentalités en France, parce que ces bombes, ces snipers qui nous tirent dans la tête et qui tuent nos femmes enceintes et nos enfants, c'est vous, parce que vous ne respectez pas le droit. » Donc nous sommes là, et nous sommes désemparés, parce que franchement, pour avoir frappé à énormément de portes et au plus haut niveau, nous n'avons que des réponses autosatisfaites, hypocrites, ou comme celle qui est proposée aujourd'hui, perverse. C'est-à-dire, nous reconnaîtrons l'État de Palestine lorsque les États autour reconnaîtront l'État d'Israël. Bien sûr, il faut une solution pacifique à un niveau international. C'est une très belle idée. Mais en attendant, la reconnaissance de l'État de Palestine est absolument une nécessité, comme les objectifs de nos mouvements, c'est un arrêt définitif et clair de tout armement, contrairement aux différentes positions prises. La non-participation au Salon du Bourget du 16 juin, c'est non négociable. Le survol de l'espace aérien français contre les décisions de la CPI, c'est non négociable. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est honteux. Honteux, ça ne tient absolument pas. Lisez les différentes tribunes de Jurdi, les juristes du droit international, et vous verrez que ça ne tient pas la route au niveau droit international. Et bien entendu, suivons l'exemple du gouvernement néerlandais qui, en début de semaine, a dit qu'il n'y aurait plus de commerce direct entre les entreprises des Pays-Bas et Israël sans un contrôle préalable des autorités gouvernementales pour s'assurer que ça suivait donc le cadre légal. Et alors, les politiques ne sont pas là. Nous avons rencontré, donc nous avons visité, puisque c'est l'objectif de notre démarche, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, des gens qui sont frileux. Nous sommes allés à Marseille, mairie socialiste, zéro visibilité, zéro rencontre. Nous sommes allés à Montpellier, où en plus le maire historien a signé une tribune appuyant le sionisme, zéro contact, zéro visibilité. Toulouse, pareil. Bordeaux, pareil. Nantes, pareil. Rennes, pareil. Très bien. Mais écoutez, sachez que dans les attitudes qui aident, facilitent et encouragent apartheid, colonisation et génocide, ce sont les mots lorsque vous voulez déposer un signalement à la CPI, vous y serez parce que ce silence contribue à tuer. Donc il est peut-être temps de vous regarder dans la glace et de changer de position pour que le traumatisme des deux côtés soit reconnu. Il n'y a aucune violence à l'égard d'Israël et du peuple juif qui vit en Israël et ailleurs. Si vous voulez réduire l'antisémitisme, changez de gouvernement, arrêtez la guerre et autodétermination, comme le dit le droit international, au peuple palestinien, sans une approche néocoloniale où on va penser ce qui est bon pour eux. On n'a pas besoin, ils nous disent, nous n'avons pas besoin de charité, nous avons besoin de droit, de liberté, de vivre notre dignité et d'être considérés comme des humains. Pas comme des animaux.
Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans quel état vous vous sentez ?
Eh bien, ça tombe bien, puisque ce matin, un médecin nous a pris la tension. Nous avons pris notre poids, nous avons fait une prise de sang et une analyse d'urine. On est, je pense, fatigué, mais déterminé. En tout cas, les constantes qu'on a prises ce matin nous permettent de continuer. Hein, mais très clairement, on n'arrêtera pas. Donc, on va faire en sorte de faire le point de notre santé et en tout cas de la communiquer, puisqu'on se met quand même en péril. Là, mais on est déterminé. Donc, on fera le point et on verra. S'il faut terminer les dernières étapes en fauteuil roulant, on le fera comme ça.
Et est-ce que pour la fin de l'interview, vous avez un message à passer ?
Alors, il n'y a pas qu'un message. J'exige de mon président qu'il passe à l'action. Les tweets, en fait, ne permettront pas d'arrêter ce génocide. Donc, je l'invite à ce qu'il agisse en tant que responsable chef d'État et qu'il respecte, en fait, le droit, qu'il applique ce qu'il a appelé, lui, des règles dernièrement dans sa prise de position lorsqu'il s'est rendu en Égypte. Il a dit qu'il y avait des règles. Nous demandons que ça, qu'elles soient appliquées. Donc, et aussi, nous avons vu qu'au niveau des institutions européennes, qu'ils étaient capables de se réunir et d'imposer des sanctions contre la Russie. Je demande à ce que l'État voyou d'Israël soit sanctionné. Cela fait 76 ans que cet État, en fait, viole tous les traités, toutes les conventions, tous les accords internationaux. Et ce n'est plus possible. Voilà. Après, je voudrais laisser aussi un dernier petit message à tous mes concitoyens. Parce que en fait, il y a de nombreuses voix qui sont étouffées, celles qu'on n'entend pas dans un média où il n'y a qu'un seul narratif qui est relayé. Et c'est qu'en fait, on ne peut plus rien attendre de nos politiques. On l'a compris et on l'a vu. Aujourd'hui, la problématique, c'est que c'est un choix politique de laisser, en fait, toute une population être exterminée. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. Donc j'invite chacun et chacune qui entendra ce message à visibiliser sa voix de manière pacifique, en continuant peut-être à sortir dans la rue, en achetant différemment, en écrivant à leurs élus et de continuer à parler qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà.
Merci d'être là, parce que vous êtes jeune, vous êtes, vous annoncez comme étant des quartiers. Les quartiers, c'est pour moi, dans ma représentation qui ne vit pas dans les quartiers, mais en plein milieu de la campagne, c'est un lieu où la France donne énormément. Nous avons beaucoup rencontré aujourd'hui, parce que dans les quartiers, il y a souvent des personnes d'origine étrangère, mais qui sont souvent plus françaises qu'un certain nombre de Français par rapport aux valeurs que l'on défend. Je vous invite à aller sur notre site. Il y a plusieurs sites. Donc, @hungryforjusticeinpalestine. On va vous donner donc le QR code aussi. Mais je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer. Le QR code, c'est un peu compliqué. Ou sinon, donc, le site aussi sur Internet, hungryforjusticeinpalestine. Où vous allez trouver beaucoup d'interventions, dont une intervention qui va probablement vous parler dans les quartiers, c'est celle de Seba, médecin pédopsychiatre, qui nous a accompagnés entre Narbonne et Toulouse, et qui raconte comment nombre de médecins aujourd'hui en France, comme nombre d'étrangers aujourd'hui en France, ne se reconnaissent plus dans une France pour laquelle ils se donnent à fond. Ils étaient là, ce médecin-là, je parle des médecins, mais ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des étudiants, ça peut être des gens qui se donnent à fond pour l'idéal de la France, l'idéal que représente la France pour eux et qui est en train de disparaître autour de liberté, égalité, fraternité, d'une philosophie des Lumières qui quand même a conduit à la déclaration des droits de l'homme et des choses qui sont extrêmement importantes, qui sont aujourd'hui bafouées. Bafoué à Gaza, bafoué en Cisjordanie, bafoué dans toutes les zones de conflit du monde dont on ne parle pas ici, et bafoué aussi à l'égard donc de ces personnes qui sont profondément françaises, attachées aux valeurs et aujourd'hui mises au banc de la société par des personnes qui construisent des murs et qui ne connaissent rien au sujet de ce dont ils parlent. Il est important que vous le sachiez, que vous ayez confiance en vous, que vous n'ayez pas peur de dire que vous êtes une force vive de la France, que vous le fassiez savoir dans chacune de vos préfectures de manière non violente. Mais surtout, évitez de rentrer dans la violence parce que c'est le meilleur moyen d'être enfermé encore avec des étiquettes. Et ces étiquettes qu'on essaie de décoller à travers ce mouvement de grève de la faim sont des étiquettes qui empêchent encore plus l'expression. Donc soyons plus malins qu'eux, écoutons les Palestiniens, qui nous donne un exemple absolument extraordinaire de résilience, de non-violence et de détermination.